Extramuros.
Extramuros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Bonjour, bonjour à tous et toutes et bienvenue pour ce plateau radio enregistré en direct depuis le 48e festival de cinéma de Douarnenez qui a lieu cette année du 15 au 22 août. L'émission sera aussi à retrouver en podcast sur Transistor 100.4 au Fou et sur Radio U 101.1 à Brest. Alors cette année, la thématique du festival est axée sur les Marocs avec des films, rencontres, concerts, expos. Pour ce plateau, nous allons parler plus spécifiquement des luttes contre les frontières et pour la liberté de circulation. Pour tous et toutes, des politiques meurtrières de l'Europe forteresse et de l'externalisation de ses frontières, des conséquences des enfermements sur les corps des personnes. On parlera aussi d'entraide et de solidarité. Alors, on sent l'ambiance de la place, en tout cas c'est très fort dans les casques. Je ne sais pas si c'est possible de descendre un peu les retours. Mais voilà, c'est un plateau qui est donc, pour les personnes qui nous écoutent, enregistré en direct sur la place du festival. Pour ce plateau, nous avons invité Lam Magok de Refugees in Libya et Imen Chiri d'Alarmphone Maroc. Nous ferons aussi un point sur la décision révoltante d'extradition du militant antifasciste Gino. Alors pour démarrer cette émission, j'avais envie de vous lire un extrait d'un texte que j'ai trouvé extrêmement puissant, qui est écrit pour le festival par David Diambio pour Refugees in Libya. Texte que vous pouvez retrouver en entier dans le catalogue du festival. Le maître, aux frontières, au travail et à l'héritage du pouvoir. Le maître a autrefois vendu des êtres humains. Aujourd'hui, il les classe. Il s'est félicité d'avoir aboli l'esclavage et érigé des statues pour commémorer sa morale. Tous. Puis il a inventé le visa, divisé l'humanité en citoyens, étrangers, réfugiés, migrants économiques, indésirables et cibles de déportation. Le maître aime la migration, pas le migrant, mais la migration elle-même. Il aime les mains qui récoltent ses fruits, les mains qui nettoient les autels, les mains qui lèvent ses tours vers les nuages. Le maître aime le mouvement, tant qu'il arrive à l'heure, travaille tranquillement et disparaît avant la saison électorale. Le maître ne déteste pas les exilés. La haine est trop émotionnelle, trop personnelle, trop humaine. Le maître préfère l'administration. Base de données, catégories, quotas, évaluation des risques, période d'attente. Car il n'y a pas de violence plus efficace que la violence qui arrive avec un timbre. Aujourd'hui, le maître gouverne encore. Il gouverne les frontières, les visas, les centres de détention, les marchés du travail, les mers, les déserts, la distance entre un être humain et un autre. Mais chaque nuit, avant que le sommeil ne le trouve, il entend les pas. Les pas de ceux qui ont traversé de toute façon, qui ont survécu de toute façon, qui se souvenaient de toute façon. Et c'est peut-être pourquoi le maître construit tant de murs. Non pas parce qu'il craint l'arrivée des exilés, mais parce qu'il craint le retour de la vérité. Voilà, c'était un texte qu'on trouvait très parlant pour introduire et n'hésitez pas à le relire en entier. Malheureusement, on a dû faire des coupes et je trouvais qu'ils faisaient aussi, pour faire un lien avec le cinéma, un lien avec le magnifique film Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop qui évoque avec force les fantômes des jeunes morts noyés. Avoir voulu traverser et qui reviennent hanter justement leur exploiteur. Et on va continuer maintenant par l'interview de Lam et une présentation du collectif de l'association Refugees in Libya.
Alors bonjour à toutes et à tous. On présente le collectif Refugees in Libya qui est une association née en Libye à Tripoli le 1er octobre 2021. Ce jour-là, la police et les milices libyennes arrêtent des milliers d'exilés dans un quartier de la capitale, donc à Tripoli. Celles et ceux qui s'échappent aux arrestations se rassemblent devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour réfugiés et réclament la protection. L'association est née de ce rassemblement. Aujourd'hui, elle est basée en Italie et elle est animée par des exilés arrivés en Europe. Ils et elles restent en contact permanent avec celles et ceux qui sont encore en Libye. Ils et elles ont mis en place une ligne téléphonique d'assistance. Ils et elles documentent les violences. Ils et elles aident à l'accès aux soins. et il et elle portent des revendications claires. La fin des détentions arbitraires, le droit d'asile, une protection juridique et la fin de l'impunité pour les auteurs de ces violences.
Et on va donc réaliser cette interview de Lam par téléphone. Et ben, tout d'abord, bonjour Lam, merci beaucoup de cette participation du coup à distance pour le plateau. Et du coup, on va le faire avec aussi une traduction vers l'anglais.
Hey Lam, do you hear us?
Yes, I can hear you. Yeah. Yes.
Okay. So thank you very much for being here with us, and so we have some questions for you.
Thank you.
Pour commencer, on avait envie de te demander comment soutenez-vous, du coup, que ça soit à distance ou sur place, les personnes migrantes qui sont en Libye. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ce travail concret de soutien.
So the question is, how do you support migrants in Libya, either remotely or on the ground?
Thank you. We support migrants remotely and also in the ground because we have association members who are in Libya, and we communicate with them. And at the time that we need to help somebody, because sometimes we make fundraising for people who need medical, for family who are in the street, and we collect, we make fundraising to collect some money to help them. And we send that money to our association members in Libya to help migrants and refugees to go to the clinic and have a medical treatment.
Donc merci. Alors pour la question de comment on soutient les personnes sur le terrain, en fait il y a des membres de l'association qui sont directement, qui sont encore en Libye ou qui sont en Libye. Et donc c'est ces personnes-là souvent qui font le relais de dire que là il y a des besoins particuliers. Et dans ce cas-là, on fait des recherches, des collectes d'argent qu'on envoie aux membres donc de Refugee in Libya en Libye. Et c'est ces personnes-là qui ensuite aident les personnes à aller en clinique ou à avoir accès aux soins dont ils ont besoin.
Et on sait aussi qu'en parallèle du travail du coup de terrain que vous faites à la fois depuis la Libye et depuis les lieux d'exil, Refugees in Libya fait aussi un gros travail de plaidoyer auprès des institutions politiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de plaidoyer, des échanges avec les institutions européennes? On sait qu'il y a aussi du coup du plaidoyer, des contacts avec le pape. Comment ça marche au niveau de ce travail politique là?
Yeah, so we know that alongside the work you do both in Libya and from the place of exile, there is also lots of advocacy work with political institutions. Could you tell us more about the advocacy work, in the particular about your exchanges with the Pope and the European institutions?
Yeah, you know, Refugees in Libya is an organization that is organization that is formed by migrants. We are not strong politically, but we can engage. Like, for example, we engage with the European institutions to make sure that refugees and migrants who have experienced detention, social trafficking, and violence, and other abuse are not only treated as a victim, but are able to speak for themselves and influence the decision that affects their life. And also, we are engaging with the European institution to bring survivor testimony and evidence into discussion about the EU migration policy, border externalization, detention and cooperation. And our advocacy includes documenting human rights violations, supporting refugees, and campaigning for evacuation, and pursuing accountability.
Donc, Refugees in Libya est une organisation qui a été formée par des migrants. immigrante. Donc on peut dire qu'à la base, on n'était pas forcément fort politiquement, mais on se bat pour être entendu par les institutions européennes, pour que les réfugiés et les migrants qui ont vécu la détention, la violence et la torture ne soient pas seulement des victimes de ce système, mais aussi des personnes qui et militants, militantes qui s'engagent et qui soient maîtres de leur propre lutte et de sortir de ce cercle de violence. Et au niveau des institutions européennes, ben on essaye de faire effectivement, donc on fait du plaidoyer pour des changements et des demandes, des réclamations politiques, de changer la politique des frontières, la coopération internationale, en documentant et en récoltant des témoignages pour montrer les violations des droits humains.
C'est ça leur contribution.
C'est la contribution qu'on peut faire au niveau, à notre niveau.
Et justement, actuellement, ben, directement en lien avec ce travail de dénonciation de violation des droits humains, il y a un directeur de camp en Libye qui est accusé de crimes contre l'humanité, qui doit comparaître devant la Cour pénale internationale. Comment Refugees in Libya est impliqué dans ce procès? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette situation précise?
Yes, so related with the human rights violation, there is a camp director in Libya who is currently accused of crimes against humanity and is due to appear before the International Criminal Court. How is Refugees in Libya involved in this case?
You know, Khaled al-Ishri, who is in the ICC, is a criminal who work under Radar Battalion in Tripoli. And you know, Libyan militia intercept migrants and they bring them back to a country where they are not safe, and they detain them in a detention run by Radar Battalion, where al-Ishri, Khaled al-Ishri works. And in that detention where migrants are detained, they are tortured, they are sexually abused, and they kill them. And as refugees in Libya, our aim is always to fight for freedom of movement, dignity, and justice. And if we fight for justice now, it is our time for us to call for justice and also to call for ICC to function and to work very well to make sure that Khaled al-Ishri and other criminals are brought to justice, and you know, and tried by the court for the crime they have committed against migrants and refugees and against anybody. And this is the reason why we are involved in the case, because majority of refugees are the victim of this Al-Khaled al-Ishri, and we come together as the refugees, together with the victim, to testify. And at the same time, to call for the ICC to look at the matter, that this is a matter where we should be, to be seen in the front of the ICC, fighting for ourselves, for our rights, calling for any criminal to be charged by the law.
J'arrive. Donc. Effectivement, donc cette personne a été est maintenant devant la Cour pénale internationale. En Libye, donc il y a des milices qui vont enlever les personnes, les arrêter, les renvoyer dans des endroits qui ne sont absolument pas sécures pour ils et elles, et notamment dans des centres de rétention où et elles vont vivre des viols, des violences sexuelles, jusqu'à être tuées. Donc nous, on se bat pour la dignité, pour la liberté de mouvement et pour la justice. Et donc quand on parle de justice, c'est effectivement là que vient notre rôle, par exemple, par rapport à ce tribunal, enfin à ce cas pénal. Et on appelle la Cour pénale internationale à reconnaître les meurtres contre l'humanité qui sont produits, et que ça soit cette personne, mais que ça puisse en être d'autres, et rappeler que les réfugiés sont les premières victimes de ces crimes. Et donc on se met ensemble en groupe pour témoigner et aussi pour appeler la Cour à ce que à être là en tant que poids pour être sûr que ces crimes soient punis par la loi tels que qu'ils sont notés dans la loi.
Et du coup, merci pour ces exemples concrets. Est-ce que tu as d'autres points importants de votre actualité, de votre travail actuellement au niveau de l'association que tu auras envie d'appuyer, de partager avec les personnes qui nous écoutent?
So thank you so much, Lam. Just I say something in French I didn't say. Juste pour dire le nom de la personne qui est donc là à la Cour pénale internationale, qui s'appelle Al-Ashri. So Lam, thank you so much. And do you have other things that you want to share with us for this last moment of the interview about the association? Something you think is important to say now?
I don't think I have much. I will just say, like, I wish I could be there with you guys, but I'm sorry that I'm very far away. And I would like to add only about the Pope, that sometimes as refugees we go and meet Pope, before we used to meet our late Pope Francis, and now we still engage with the Catholic, with the new Pope, and we go to them and we approach them. And our approach to Pope and Catholic Church is to recognize the suffering of refugees in Libya, and also in Tunis, and at the same time for the church to support the humanitarian corridor to evacuate refugees out of Libya, and also to make them understand that the situation of the refugees is so horrible that the church also sometimes have to support the organization that evacuate migrants. And that's it. That's how we engage with the Catholic Church sometimes. And thank you so much.
Alors, j'ai pas forcément beaucoup d'autres choses à rajouter, à part que j'aurais déjà aimé être là avec vous, mais que je suis loin à ce moment-là. Et aussi, juste pour dire par rapport à cette question sur le pape, donc effectivement, avec Refugee in Libya, on a rencontré le pape d'avant, pape Francis, et celui de maintenant. Et on les rencontre et pareil, on pousse à ce qu'ils reconnaissent les réalités des migrants et réfugiés en Libye, mais aussi par exemple en Tunisie, enfin partout où on souffre finalement, et d'appuyer pour demander un couloir humanitaire pour que toutes ces personnes-là puissent sortir de façon sécure et sans risquer leur vie de Libye et de ces endroits de détention. Et que voilà, que les crimes contre les réfugiés soient reconnus.
Merci beaucoup, Lam, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Oui, merci. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, qui voudront aussi retrouver en podcast, on mettra aussi tous les liens internet pour en savoir plus sur le travail de Refugees in Libya, pour les personnes qui voudront aussi un peu creuser la situation. Merci beaucoup.
Thank you, Lam.
Grazie mille.
Grazie. Ciao.
Et avant de passer à notre deuxième interview d'Imen d'Alarmphone Maroc, on va écouter un morceau de Chris Obey qui s'appelle Non Siamo Peschi. Excusez-moi pour ma prononciation. Et qui est directement en lien avec le sujet, parce que c'est une personne qui, du coup, a fait la traversée, qui a survécu à cette traversée. Et la traduction littérale, c'est « Nous ne sommes pas des poissons ».
Ma non va benissimo. Vedo le cavalle. fare strada. Perché l'odio è l'invidia, mi segnala la guerra. Non siamo pesci dentro il mare. Non siamo pesci, siamo umani. Non siamo pesci dentro il mare. Oh, non siamo pesci, ma siamo umani. Da casa, sperava di tornare presto. A volte la vita non può essere prevista. Ho sentito un gemito nell'oscurità, ma tutto quello che ho visto era un bambino in fondo a mare, costretto a vivere da pesce. Non siamo pesci dentro il mare. Non siamo pesci, ma siamo umani. Non siamo pesci dentro il mare. Oh, non siamo pesci, ma siamo umani. Siamo pesci, ma siamo umani. Non siamo pesci dentro il mare. Oh, non siamo pesci, siamo umani.
Et on se retrouve pour ce plateau en direct enregistré au Festival de cinéma de Douarnenez sur la place et que vous pouvez retrouver en podcast sur Transistor 100.4 et Radio U sur le 101.1. Donc une thématique sur la lutte contre les frontières. Et on poursuit avec notre invité Imen d'Alarmphone Maroc. Juste pour vous présenter rapidement, Alarmphone, c'est une ligne d'assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est autogérée par des activistes pour soutenir les appels des personnes en détresse sur la frontière méditerranéenne, exiger leur sauvetage et leur débarquement dans des ports sûrs. Et c'est aussi un réseau transnational de personnes donc, qui luttent contre le régime européen des frontières et souhaitent un passage en sécurité vers l'Europe et la liberté de circulation pour tout le monde. Et ce projet, donc, qui est aussi appelé Watch the Med, existe depuis 2014. Toi, Imen, tu fais partie de Alarmphone Maroc. Est-ce que tu peux commencer du coup par présenter?
Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Imen Echeri. Je suis basée à Oujda. Et je fais partie d'Alarmophone Maroc depuis 2018. Donc Alarmophone Maroc, c'est un réseau composé des personnes marocaines et des personnes aussi subsahariennes. En fait, la plupart, ce sont des subsahariennes, on est trois marocains. Et nous sommes présents dans plusieurs régions du pays, donc c'est plus de 11 villes marocaines. Donc pour le Maroc, notre travail, c'est d'accompagner les personnes en mouvement, surtout que quand elles font face à des situations de détresse, d'arrestation, de disparition, d'expulsion, de violence ou violation de leurs droits fondamentaux. Nous faisons aussi de suivi, de la documentation, de la traduction et l'interprétation. Nous faisons de la sensibilisation et du plaidoyer pour les migrants. Et nous travaillons également sur les personnes disparues ou décédées sur les routes migratoires, notamment à travers l'organisation de plusieurs activités de commémoration dans la plupart des villes marocaines, du nord, sud, est, ouest. Donc, pour nous, comme équipe à l'Armée au fond de Maroc, il est très important de le dire, vraiment. Nous ne parlons pas à la place des personnes concernées. Et nous essayons toujours de soutenir leurs paroles, leurs choix et leurs formes de résistance. Donc, oui, c'est ça.
Tu avais préparé un texte qui était très beau sur les différents enfermements, etc. Je ne sais pas si tu aurais envie de...
Oui, bien sûr. Donc, toujours quand on entend ce mot « enfermement », on pense souvent à une prison ou à un centre de rétention, de détention. Mais dans les parcours migratoires, l'enfermement prend d'autres formes, vraiment. Donc, il peut être physique, administratif, géographique, économique, social ou même psychologique. Donc, il y a bien sûr l'enfermement physique, donc tout ce qui est prison, commissariat, les centres de détention ou d'autres lieux où une personne est privée de liberté. Mais aussi, il existe d'autres formes moins visibles d'enfermement. Donc, par exemple, une personne peut être officiellement libre, mais ne peut pas pouvoir se déplacer à cause des contrôles de la communauté même, des migrants, à cause de la peur d'être arrêté, à cause de l'absence des papiers ou à cause de déplacements forcés. Donc certaines personnes restent bloquées pendant des semaines, parfois des mois, dans des zones frontalières. Ils ne peuvent ni avancer, ni revenir en arrière, ni s'installer vraiment. Donc, et même sans mur, ni barreau, la peur permanente et l'impossibilité de choisir ces déplacements pour devenir une forme d'enfermement. Dans les situations de traite et d'exploitation aussi, ces enfermements peuvent être très concrets. Certaines personnes, par exemple, sont enfermées dans des maisons ou dans des appartements, parfois longtemps. Parfois c'est 2 mois, 3 mois et parfois c'est 1 année, 2 années, avec très peu de possibilités de sortir, même pour aller faire des courses, aller à l'hôpital, à l'arrondissement, donc sortir juste pour voir la ville. On peut leur confisquer leurs papiers, leurs téléphones ou leur argent, et cela les rend encore plus dépendantes de ceux qui les contrôlent. Donc, on parle maintenant des personnes vraiment de la communauté, des réseaux de mafia et tout. Et surtout, les femmes sont contraintes à l'exploitation sexuelle d'autres personnes au travail forcé ou à la mendicité forcée. Ou travail forcé à la maison, donc faire le nettoyage, préparer à manger à plein de gens sans avoir de l'argent après. Donc il y a aussi des dettes liées au voyage, au logement ou au passage des frontières. Et cette dette devient un moyen de pression. On leur dit qu'elles ne peuvent pas partir tant qu'elles n'ont pas payé. Il y a aussi le contrôle par la peur. La personne peut être menacée, surveillée, isolée. Il peut être empêché de contacter sa famille ou de demander de l'aide. Parfois, il pourrait sortir physiquement, mais il ne le fait pas, parce qu'il a peur de violence, des représailles ou des problèmes avec les autorités. C'est pour cela qu'il ne faut pas réduire l'enfermement aux murs et aux barreaux. Une personne peut être enfermée par la dette, par la peur, par la dépendance, par la confiscation de ses documents ou par le contrôle de ses mouvements. Et ces formes-là sont souvent beaucoup plus difficiles à voir de l'extérieur. Donc l'enfermement peut aussi être économique et social. Quand une personne n'a pas accès au logement, au travail, aux soins ou aux documents, sa liberté devient très limitée. Il peut être libre sur le papier, mais ne peut avoir la possibilité réelle de choisir où vivre, comment se déplacer ou comment construire son avenir. Toutes ces formes d'enfermement ont des conséquences très fortes sur le corps. Beaucoup de personnes ont déjà vécu des parcours très difficiles, longues marches, traversées en mer, violence, manque de nourriture, manque d'eau, manque de sommeil ou absence de soins. Certains arrivent avec des blessures non soignées, d'autres vivent avec des douleurs chroniques, de la fatigue ou des problèmes de santé aggravés. Et quand une personne vit dans l'enfermement ou dans la peur constante d'une arrestation ou d'une expulsion, son corps reste en état d'alerte permanent. Cela peut provoquer des troubles du sommeil, de douleurs, des maux de tête, des problèmes digestifs, une grande fatigue et un épuisement général. Le corps garde donc aussi la trace de l'enfermement. Les conséquences psychologiques sont tout aussi importantes. Il peut avoir l'angoisse, la peur, la tristesse, la colère, un sentiment d'impuissance, des crises d'angoisse ou des symptômes traumatiques. Et l'incertitude est souvent le plus difficile. Ne pas avoir combien de temps cela va durer, ne pas savoir si on va être libéré, déplacé, expulsé, ne pas savoir quand on pourra voir sa famille. Il faut aussi rappeler que beaucoup de personnes ont déjà vécu d'autres violences avant, dans leur pays d'origine, pendant le trajet ou aux frontières. L'enfermement vient souvent s'ajouter à tout cela. Et même après la sortie d'un lieu d'enfermement, tout ne s'arrête pas. Une personne peut être libre physiquement, mais continuer avec la peur, les souvenirs, les troubles du sommeil ou la difficulté à faire confiance. Ces effets peuvent durer longtemps. C'est pour cela que l'accompagnement après l'enfermement est essentiel. Il faut pouvoir retrouver des repères, accéder aux soins, recevoir des informations fiables, être écouté et retrouver progressivement un sentiment de sécurité. Dans ce contexte-là, notre travail comme équipe d'alarmophone est aussi de maintenir le lien. Quand une personne est en détresse, arrêtée, détenue, déplacée ou victime de violation de droit, nous essayons de garder le contact. Nous recueillons les informations, nous orientons vers les ressources disponibles. Cela peut être contacter un avocat, trouver des soins, rechercher des personnes disparues, se tenir une famille, traduire une information ou simplement écouter. Parfois, un simple appel change beaucoup de choses, surtout pour une personne isolée. Nous travaillons aussi avec les familles qui recherchent leurs proches. Derrière chaque disparition, il y a une famille qui attend. Ne pas savoir où se trouve un proche est aussi une forme de violence. Le soutien psychosocial fait également partie de notre travail. Il ne s'agit pas toujours de thérapie. Parfois, la première chose nécessaire, c'est simplement de pouvoir parler, raconter, être écouté sans jugement et reprendre un peu de contrôle sur son histoire. La documentation est aussi très essentielle. Documenter les arrestations, les violences, les disparitions ou les conditions de détention permet de rendre visibles ces réalités souvent cachées. Mais je veux aussi insister sur un point important. Les personnes en mouvement ne sont pas seulement des victimes. Ils développent des stratégies, des réseaux de solidarité et des formes de résistance. Ils s'entraident, partagent des informations, préviennent des dangers, accueillent des nouvelles personnes, recherchent des disparus, traduisent et s'organisent. Notre rôle n'est donc pas de parler à leur place, mais de se tenir leur parole et leur capacité à défendre leurs droits. Pour moi, lutter contre l'enfermement, c'est aussi lutter contre l'isolement. C'est maintenir des liens là où les frontières cherchent à les couper. C'est permettre à une personne de rester en contact avec l'extérieur, à une famille d'avoir des nouvelles, à quelqu'un d'accéder à une information ou à des soins. Ou simplement d'être écouté. La solidarité peut parfois sembler faite des petits gestes, un appel, une traduction, un message, une orientation. Mais dans des situations où presque tout est perdu, ces gestes peuvent être essentiels. Et finalement, derrière les mots migration, frontières, détention ou expulsion, il y a toujours des personnes avec une histoire, une famille, des projets, des peurs, des rêves et surtout des droits. À travers Alarmophone Maroc, nous essayons de défendre une solidarité concrète, la dignité à la liberté et le respect des droits fondamentaux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Imen, pour ton texte. Il met des mots assez clairs sur des quotidiens qui sont, en fait, qui résonnent peu dans nos espaces militants depuis les Suds, et qui résonnent aussi l'état des lieux de l'accueil ou du non-accueil des exilés dans les pays du Sud avec ceux que nous connaissons des pays du Nord. En France, je pense à la France avec les centres de rétention administratif ou tous les quotidiens avec ICE aux États-Unis aujourd'hui. J'aurais envie de réagir et de rebondir sur plusieurs éléments de ton texte et vraiment merci infiniment. Mais peut-être qu'on peut commencer par le travail énorme que vous faites auprès des familles des personnes disparues. Et à partir de l'événement en juin, je pense que vous aviez organisé dans Alarm Phone un déplacement vers les îles Canaries pour commémorer les disparus. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, nous dire le sens de ce voyage-là?
Oui, bien sûr. En fait, comme j'ai déjà mentionné qu'au Maroc, mais pas qu'au Maroc, aux pays européens aussi, on organise chaque année des commémorations, donc des actions de commémoration. Et en fait, l'idée, c'était arrivé de ces activités-là. Donc, aux îles de Canaries, donc il y a beaucoup de bateaux qui arrivent là-bas depuis le Maroc. Et il n'y a pas beaucoup de sensibilisation. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui vraiment savoir le travail des associations marocaines et aussi des associations de Nord-Afrique et aussi des associations en Afrique et en général le travail d'Alarmophone. On a deux camarades là-bas qui travaillent, mais ils travaillent dans une île et l'information ne se partage pas dans les autres îles. Donc c'était l'idée. L'idée c'était de vraiment partir en voyage dans trois îles, donc organiser des commémorations dans chaque île et visiter des associations, des collectifs et partager notre travail au Maroc, surtout au Maroc, et le travail au Maroc et aussi au Sénégal et au Mali. Donc on a commencé par la première île, donc on a organisé vraiment des tables rondes avec d'autres collectifs, associations espagnoles mais aussi marocaines. Donc on a partagé nos idées, notre travail, mais aussi on a partagé nos expériences, les bonnes pratiques. Et aussi, donc, on était en train de discuter comment on peut se coordonner, se travailler ensemble dans le futur. Et après, donc, on a organisé une commémoration au bord de la mer pour informer, partager l'expérience de l'équipe avec la population là-bas espagnole qui connaît presque rien sur le travail de la recherche des disparus, de la commémoration, de tout ce qui est vraiment recherche et tout. Et aussi, l'idée, c'était aussi de partager nos contacts pour garder les liens avec les associations, les activistes là-bas. On a visité aussi des personnes, des familles des disparus. Donc on a fait des visites avec eux sur le lieu où il y avait des naufrages, des bateaux. Donc c'était très bien. Donc on a visité des temples des migrants. Donc on a vu la situation d'enterrement des migrants là-bas en Espagne, que c'était pas très bien. C'était pas une bonne expérience parce qu'on a vu comment l'enterrement des musulmans, c'est pas à la façon musulmane, donc c'est comme les chrétiens. Il y avait beaucoup de problèmes vraiment, donc les noms, et dans les tombes il y avait les noms de la personne avec et ils mentionnent migrants, personnes migrants, et c'est juste pour les migrants subsahariens ou les migrants du nord africain, mais pour les étrangers, les autres, c'est pas le même cas. Donc, il y avait beaucoup de problèmes administratifs aussi. Donc, et aussi, c'était très important de vraiment parler du travail des personnes du sud là-bas, parce qu'ils ne connaissent rien sur la situation vraiment au Maroc, au Sénégal, par exemple, la Tunisie et au Mali. Et l'importance aussi, c'était de voir les possibilités de s'entraider, de coordonner, de travailler dans le futur. Donc, grosso modo, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est grosso modo, c'était l'idée, c'est vraiment de partager notre expérience là-bas, donc, et voir les possibilités de travailler ensemble pour aider les familles des disparus dans la mer là-bas, et comment on peut travailler ensemble pour voir les dossiers ensemble, en fait. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'il y existe une disparité assez énorme entre le travail qui est fait par des structures dans le Nord qui se limitent, on va dire, c'est pas réductif, mais qui se concentrent, on va dire, sur l'accueil, alors que des pays de départ, il y a les familles qui sont très mobilisées pour retrouver leurs proches disparus, et ça crée des situations assez spéciales dans les pays de transit aussi, dont le Maroc, la Libye et la Tunisie.
Ouais.
Peut-être, étant donné l'écho du présent de Ceuta, des événements à Ceuta, on a vu des images de familles de disparus qui se trouvent, on va dire, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Est-ce que Alarmphone est présente comme structure auprès des familles? Quel est le travail qui est fait aujourd'hui à ce niveau-là? Je ne sais pas si tu peux nous en dire quelque chose.
Bien sûr. Pour Alarmophone, donc, il n'est pas présent vraiment sur Ceuta, physiquement. Mais le hotline Alarmophone reçoit beaucoup des appels de la part des familles, donc des familles qui cherchent leurs proches là-bas à Ceuta, mais aussi des personnes qui sont là-bas à Ceuta sur le territoire de Ceuta. Donc ils nous contactent, ils contactent le hotline, donc pour avoir des informations s'il y a des associations qui donnent des aides là-bas, donc tout ce qui est nourriture, tout ce qui est par exemple hébergement si c'est possible, mais aussi d'autres trucs comme par exemple, parce qu'il y a beaucoup de mineurs là-bas, des filles qui subissent des violences sexuelles, des viols. Donc s'il y a des associations là-bas qui peuvent les aider vraiment au niveau juridique, administratif. Et aussi tout ce qui est urgence, par exemple, des trucs très simples pour les gens. Donc, mais c'est très important pour des personnes qui viennent d'arriver à Ceuta. Par exemple, le fait de où ils peuvent charger leur téléphone pour contacter leur famille. Donc, s'il y a d'autres... Il demande beaucoup de questions sur s'il reste là-bas à Ceuta, s'il peut, dans le futur, ils vont avoir leurs papiers ou pas. Donc, s'ils subissent des violences de la part de la police espagnole, donc comment ils peuvent faire. Donc, des questions comme ça. Donc, vraiment, et nous, on est en contact avec des associations là-bas à Ceuta, comme No Name Kitchen. Donc, on est en contact vraiment toujours pour répondre à des questions. Donc, s'il ne répond pas au téléphone, donc on les contacte encore pour dire qu'il y a une personne qui l'a contacté, il a besoin de ça et ça. Donc, on fait un peu le lien entre l'association là-bas et les personnes en mouvement à Ceuta.
Donc, on peut imaginer la quantité de travail quand même et de soutien qui repose beaucoup sur le peu de structures dont Alarmphone fait partie.
Ouais.
Au Maroc.
Et je voulais ajouter aussi, parce qu'il y a beaucoup de disparitions, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur enfant, leur père, leur famille, voisin et tout. Donc il y a aussi ça aussi, le suivi, le follow-up des disparitions là-bas aussi. Ouais.
Et il y a un mouvement des familles disparues qui est assez organisé au Maroc, donc au niveau des... puisque je sais que dans le film que tu as mentionné tout à l'heure de Mati Diop, on voit qu'il y a un...
Peut-être dans un autre... Pas dans Atlantique.
Okay.
Au niveau de Maroc, non, parce qu'en Tunisie, vraiment, il y a ça. Il y a des familles qui ont qui créent des associations, vraiment, et ils travaillent très bien. Il y a un groupe WhatsApp où il y a d'autres familles de disparus, donc ils sont très organisés en Tunisie. Mais au Maroc, non. Et ils font partie de ce groupe-là de la Tunisie, mais il n'y a pas vraiment un groupe des familles des disparus qui travaillent, qui est organisé, qui a une association où il peut travailler et tout, comme la Tunisie. Donc au Maroc, donc il fait partie de ce groupe-là qui est en Tunisie. Il y a aussi le groupe de Commémération. Donc ça, c'est vraiment l'organisation des activités de commémoration pour les personnes disparues et décédées en mer. Donc ce sont les grands événements et tout, mais c'était un grand groupe où il y a beaucoup de familles, des activistes aussi, donc ils sont du Maroc, Tunisie, Mali, Sénégal. Actuellement, il y a des Nigériens et tout, donc il y a toutes les nationalités vraiment. Donc où il y a les familles qui partagent beaucoup tout ce qu'ils font, donc les activités, les expériences, tout. Donc dans ce groupe-là. Ouais.
Est-ce qu'on peut poursuivre avec une question encore? On a un peu de temps ou...
Peut-être si tu as quelque chose à rajouter, mais oui. On a un peu des contraintes horaires pour... je ne sais pas si tu as une dernière chose que tu aurais envie de rajouter.
Je voulais vous remercier vraiment parce que vous me donnez cette opportunité de partager mon expérience, mon travail et aussi d'expliquer un petit peu comment on travaille au Maroc et surtout dans la ville d'Oujda. Et aussi, je veux dire que nous, on est un petit groupe vraiment. Il y a peu des activistes qui travaillent vraiment à cœur dans cette question-là, mais on va continuer à travailler et à lutter contre tout type de violence vraiment et d'exploitation de tout type. Merci beaucoup.
Avant de se quitter, Imane, tu avais choisi un morceau aussi pour l'émission. Est-ce que tu as envie de nous le présenter, nous dire pourquoi tu l'as choisi?
C'est une chanson de Fayrouz. C'est une chanteuse libanaise qui chante toujours des chansons politiques, vraiment, mais générales. Donc, il chante pour la liberté, pour les droits d'être humain et tout. Et c'est ma chanson préférée. Oui, c'est tout. Je l'aime tout. Ouais.
Merci beaucoup à toi.
Merci, Imane. Merci.
تعب الظهيرات. حسنا للحنين وناس الحنين مكان لنا فيا قلب كم شردتنا رياح تعال سنرجع
Vous êtes toujours à l'écoute du plateau enregistré en direct au Festival de cinéma de Douarnenez, un plateau de lutte contre les frontières et pour la liberté de circulation pour tous et toutes. On va continuer maintenant avec un point à faux d'une camarade qui nous parle de la décision du coup révoltante qui vient de tomber d'extradition du militant antifasciste Gino.
Et donc, cette décision de la Cour d'appel qui décide pour l'extradition de Gino vers l'Allemagne est tombée il y a deux jours, mercredi, le 19 août. Et on va expliquer l'affaire. Tout ça, c'est dans l'affaire dite de Budapest, au Budapest Context. Budapest Context, c'est une affaire, c'est une sorte de filet répressif lancé par l'Hongrie à l'époque du président Orban contre les mouvements antifascistes. En gros, en 2023, en février, lors de la journée de l'honneur, la journée de l'honneur, c'est une rencontre européenne qui a lieu à Budapest des nostalgiques du nazisme. Et donc, il y a un grand défilé avec des personnes habillées NSS, et voilà, nostalgiques du nazisme, et c'est la journée de l'honneur. En février 2023, en marge de cette manifestation, il y a eu des affrontements, en tout cas, entre des manifestants antifascistes et des nazis. Et pour Orban, c'était l'occasion de lancer ce filet répressif. On rappelle qu'en Hongrie, l'antifascisme est considéré une activité et classé terrorisme. Donc, il y a plusieurs militants européens qui ont été poursuivis. Et c'est dans ce cadre que Gino a été arrêté en novembre 2024 à Paris. Gino, il est d'origine albanaise, mais il a passé sa vie en Italie. Il s'est trouvé en France à ce moment-là. Il a passé 3 mois en détention préventive, ensuite libéré. Et après diverses audiences, la Cour a refusé l'extradition. Pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un mandat d'arrêt européen. Les mandats européens participent à cette entraide des polices européennes. Donc, normalement, quand un pays, les pays, il doit identifier la personne, le cas échéant, Gino, il avait été identifié par les services hongrois comme étant en France. À ce moment-là, il y a un mandat d'arrêt qui peut être émis et le pays est censé remettre la personne au pays qui la demande. Il y a par contre des exceptions. Quand on peut dire la norme, c'est remettre la personne au pays qui émet le mandat d'arrêt. Par contre, si la personne, en allant dans ce pays, et les libertés fondamentales ne sont pas respectées, les pays ils peuvent refuser. C'est ce qui s'est passé pour Gino. En gros, la France a refusé l'extradition, puisque en Hongrie, ni d'un point de vue de la procédure du procès, et il y avait les conditions d'un procès dite juste, en tout cas où tous les éléments étaient mis, il y avait un contradictoire, etc., ni les conditions de détention qui s'apparentent à la torture et qui avaient été déjà expérimentées par d'autres personnes qui avaient été arrêtées dans les mêmes cadres. Donc on parle des conditions donc, qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Mais la Cour, elle a en plus considéré que Gino, autant que militant antifasciste, personne de croyance antifasciste, il aurait été doublement en danger en Hongrie. À ce moment-là, s'est refusé, donc Gino se retrouve libre. Et sachant qu'un pays qui émet un mandat d'arrêt ne peut pas les remettre, par exemple l'Hongrie, ne peut pas remettre un mandat d'arrêt de Gino en France. Par contre, si Gino va dans d'autres pays, en Italie ou ailleurs, il y a un mandat d'arrêt à nouveau qui peut être remis sous les mêmes arguments. Mais en tout cas, sous les mêmes arguments, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Décembre 2025, Gino est à nouveau arrêté. Et à noter qu'il est arrêté encore une fois par la SDAT. La SDAT, c'est la sous-direction antiterroriste territoriale. Donc ça veut dire que la France mobilise les forces antiterroristes pour arrêter quelqu'un comme Gino. Alors, Gino, il est présumé coupable d'avoir infligé des blessures à deux personnes de nationalité allemande. On parle d'entre 3 et 5 jours d'ITT. Pour ça, il risquait jusqu'à 24 ans de prison en Hongrie, dans des situations, effectivement, des privations de liberté totale, et ça s'apparente à de la torture blanche, et on reviendra. Donc, en 2025, il a à nouveau arrêté. Pourquoi? Parce que l'Allemagne émet un mandat d'arrêt à l'encontre de Gino, puisque les deux personnes, les deux nazis, et on ne parle même pas des néo-nazis, parce que c'est des personnes vraiment qui ont fil direct entre le nazisme d'antan et ils ne s'en cachent pas. Ces personnes qui avaient entre 2 et 5 jours, 3, 5 jours d'ITT, étaient des origines allemandes. Il passe 2 semaines en prison, ensuite il est libéré. Il y a beaucoup de procédures jusqu'à arriver à ces résultats. Donc la France donne l'extradition de Gino vers l'Allemagne. Et pourquoi? Et donc les avocats, à ce moment-là, ils ont beaucoup souligné comment déjà il y avait un vice de forme. C'est-à-dire que les mandats d'arrêt émis par l'Allemagne, il est tel quel, c'est lui, sous les mêmes faits décrits, comme il est écrit en Hongrie. Donc ça montre bien que ça repose sur cette supposition de ces pays qui est l'Hongrie. Et donc pour eux, il y avait là un vice de forme. Mais il y a quelque chose aussi de très important, c'est qu'en Allemagne, aujourd'hui, il y a un gros filet répressif aussi autour de l'antifascisme, que les personnes arrêtées dans le cadre des de mêmes accusations, ils sont en train de subir une prison des années, une prison dure, mais aussi il y a quelque chose qui raconte comment l'Allemagne, là, elle marche bras dessus avec l'Hongrie, parce que il y a déjà désormais 2 ans, Maya, personne allemande, a été arrêtée toujours sous les accusations de l'Hongrie. Il a mandat d'arrêt à son encontre. Après un temps passé en prison, et les avocats, ils avaient fait un recours à la Cour de cassation. La nuit, à 4 heures, des policiers, Maya est pris dans sa cellule, mis dans un hélicoptère, accompagné par des policiers masqués, amené en Autriche et là remise dans les mains de la police hongroise. Aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que Maya, par ailleurs, subit en Hongrie une double peine, c'est-à-dire qu'elle est d'un côté antifasciste, donc on répète, l'antifascisme est considéré une activité terroriste, mais c'est aussi une personne non binaire. Dans la constitution hongroise, c'est écrit qu'il n'a que 2 genres. Donc, autant que personne non binaire, elle est dans une prison enfermée à l'isolement. Elle subit de la torture blanche, ça veut dire être toute la nuit avec des lumières allumées, réveillée à n'importe quel moment. Elle est fouillée à nu à chaque fois qu'elle va manger. Elle n'a droit qu'à 2 heures de visite par mois. Ça veut dire que la famille a dû se réparpiller une heure au début du mois, une heure à la fin, ce qui s'implique aussi pour la famille, une logistique très compliquée. N'a droit qu'aux lettres de la famille, donc qui fait un grand PDF avec les autres lettres qui sont envoyées. Et comme était déjà arrivé pour l'italienne Ilaria Salis, qui était ensuite libérée parce qu'elle a eu l'immunité parlementaire, parce qu'en Italie il y a eu quand même une grosse mobilisation qui ont fait qu'elle a pu sortir, ce qui n'est pas en train d'arriver en Allemagne. Elle est amenée, cadenassée aux pieds et aux mains, aux séances des tribunaux, aux audiences. Et sachant que de la prison au tribunal, il y a un couloir, donc il n'y a aucune raison que cette personne puisse s'enfuir ou autre. L'Allemagne, ces faits sont connus. Il y a des informations qui sont sorties, il y a même des images qui ont été tournées lors du procès. Et l'Allemagne ne bouge pas un doigt pour les conditions et la libération des Mayas. Donc aujourd'hui, la France, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une demande de l'Allemagne sur les mêmes bases des accusations de l'Hongrie pour aller en Allemagne. Encore plus compliqué, et je le dis entre parenthèses, Orban, qui était le président d'alors, est tombé en avril, mais il est tombé, il était remplacé par un président qui est quand même ultra-traditionnaliste, qui faisait un temps partie de son parti, et que les structures juridiques et la police d'un pays, ça ne change pas du jour au lendemain, même si on voudrait croire que ça ira pour le mieux. Alors, Gino risque 24 ans en Hongrie, il risque quand même 10 ans en Hongrie, on répète, pour des affrontements en marge d'une manif nazie ou de nazis qui ne l'ont pas reconnu, il n'y a pas de preuves, ils ont quelques jours d'ITT. Mais en plus, il y a un autre camarade qui se retrouve aujourd'hui sous procédure d'extradition, c'est Zaïd. Zaïd, il est en Allemagne, tout en étant d'origine syrienne. Son procès, il se passe à les rendus du procès, c'est en septembre. Et lui, il risque l'extradition vers l'Hongrie. Zaïd était en Allemagne, il faisait partie d'un groupe de personnes poursuivies sur cette affaire, qui à un moment, ils avaient décidé de passer à la clandestinité, parce qu'ils avaient vraiment peur d'être remis à l'Hongrie, où il y a une farce de procès, il n'y a même pas de contradictoire et tout ça. Ils ont décidé de se rendre. Donc, les personnes d'origine allemande sont aujourd'hui en prison en Allemagne. Mais Zaïd, autant que personne non allemande, il a eu l'extradition vers l'Hongrie. L'Allemagne a quand même donné l'extradition vers l'Hongrie, parce que l'Hongrie, quand même, demande à l'Allemagne ensuite de les renvoyer. Il a réussi, il avait eu la possibilité de sortir en attente du dernier rendu, et il s'est réfugié en France. Donc, nous, on présuppose bien que, d'un côté, aller en Allemagne, vu la situation, c'est où il y a effectivement une criminalisation de l'antifascisme, aussi en Allemagne, parce qu'il y a le groupe Antifa Ost, donc Ost ça veut dire Est, qui est considéré un groupe terroriste, sur les mêmes bases, et aussi aux États-Unis. Hein, là, il y a vraiment l'alliance, non pas qu'européenne, mais aussi transnationale autour de ça. Mais donc, Gino, soit il se retrouve en Allemagne pour ces faits, mais encore plus probable, il sera renvoyé en Hongrie. Donc là, il y a 10 jours, et là je vais parler au nom du comité des soutiens, qui a envoyé, qui fait circuler. Maintenant, il y a un appel à la Cour de cassation. Mais en gros, Gino, qui aujourd'hui est en liberté, il a 10 jours. Dans 10 jours, il faut qu'il soit, il doit être renvoyé en Allemagne. Et la Cour de cassation, ça demande 40 jours. Donc, les comités des soutiens demandent vraiment de se mobiliser. Aujourd'hui, je pense qu'on parle non plus presque de l'Hongrie, on parle de l'Allemagne, on parle de la France. On parle bien évidemment de l'alliance contre l'antifascisme qui protège les nazismes en Europe. Mais aujourd'hui, je pense que nous, on parle aussi à la France parce que c'est eux qui ont donné l'extradition. Et donc, j'ai lu les derniers passages des camarades qui ont fait tourner ce message. Nous n'avons donc que très peu de temps et il n'est plus que nécessaire de se mobiliser massivement et de montrer votre soutien de toutes les manières possibles. Communiquer des soutiens, banderoles, tractages, affichages, rassemblements devant les ambassades, etc. pour éviter à Gino une extradition imminente. Nous comptons sur vous, ne lâchons pas la pression et poursuivons notre travail de solidarité. Gino ne doit pas être extradé. Ne lâchons rien.
Merci à toi d'avoir porté ce message et ce point info qui est assez fort. Et effectivement, il ne s'agit pas que de Gino, mais la possibilité de son extradition va ouvrir d'autres possibilités, à commencer par Zaïd, à commencer par d'autres personnes. Il est plus urgent et plus nécessaire de s'organiser. Tu voulais dire quelque chose d'autre ?
Je voulais juste ajouter que... il y a les comités de soutien est plutôt présent sur Instagram, donc vous pouvez suivre la mobilisation sur Instagram, qui, avec les comités de soutien, a été réalisé un podcast des meilleurs qui est très clair, où il y a aussi la parole de Gino Zaïd et des personnes qui sont proches de Maya. Et donc, ça reprend un peu ce que je vous ai raconté, mais avec plus de détails. Et voilà. Et après, il y a un rendez-vous ce soir à 19h30 ici, parce qu'on a fait une grande banderole.
La banderole qui est là, là. On a un rendez-vous à 19h30 à côté du chapiteau.
Pour les personnes donc, qui sont présentes au festival.
De Douarnenez, pour se prendre en photo et l'envoyer au comité de soutien. Ils et elles sont très enthousiastes de cette première action de Douarnenez.
Oui, ça fait aussi que sur les personnes qui, comme nous, là c'est un plateau radio où on s'est mis des gens de différentes villes, dans différentes radios associatives, c'est possible de reprendre sur nos radios locales le podcast qui a été fait pour justement un peu plus en parler partout, quoi. Et voir si dans les villes, pour les personnes voilà, qui sont pas à Douarnenez, si dans la ville où vous êtes, il y a moyen d'organiser une mobilisation, d'en rejoindre une, d'écouter le podcast. Merci beaucoup. Eh ben, on arrive à la fin de ce plateau. Tu voulais rajouter quelque chose ?
On a choisi une chanson pour clôturer qui résonne beaucoup, enfin qui a été utilisée par les camarades du comité de Budapest à différents instants. Siamo tutti Antifa.
Merci beaucoup.
Merci.
Wir kommen in Schwarz, Dicker, mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa, siamo tutti Antifa,
ey. 2035, neunig Venedig. Brüder ticken im goldenen Käfig. Wir fangen an zu träumen, es regnet hier, wo der Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen ist. Aus auf der Flucht geh jeden Einzelhaft. In eure Welt haben wir niemals reingepasst. Wo ich meine Heimat hab, in mein zwei Zimmern hintermanns Eibersplatz und im Herzen von Tex. Sie machen Kunst, als wär's nicht mehr als Geschäft. Wär ich Spotify, wären die weg. Und wärst du nicht so ein Bastard, dann wäre ich nett. Check. Kein Flex und kein Drip, keine heftigen Hits, aber Zeilen wie Steine.
Verwechsel uns nicht.
Mach frei am 1. Mai, Herr Polizei.
Glaub mir, ist besser für dich.
A-C-A, oder wie? A-C-A-B. A-C-D-C. Nee, A-C-D-C. A-C-B-C.
A-C-A-B.
Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa. Siamo tutti Antifa.
Babylon so oder so, von Konstantinopel bis Rom.
Ihr Modi,
meine Leute haben noch nicht mal Kohle für Strom. Wir schreiben Geschichte und ihr nur Geschichten. Macht Sitz und Platz und bell, du Hund.
Ist mir egal, was eure bürgerliche Mitte hält von uns.
Fahnen sind rot, Poloshirt schwarz, Legacy groß. Wer ging je so radikal in die Charts? Aus Hamburg, hey Disaster. Hab'n Hund, doch immer Kater. Und ein Impact auf dein Mindset wie dein Onkel oder Vater.
Mach ein Kreis. Mach ein Kreis, mach ein Kreis, mach ein.
Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. Wir kommen in Schwarz, Dicker. Mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. 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 Siamo tutti Antifa.
Five, four, three, two, one.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Nous sommes au guidage.